Vous voulez condamner mon client pour du cannabis, CBD, THC, de la cocaïne, de l'héroïne, n'importe quoi, stupéfiant, sur la base d'un arrêté qui marche plus. Donc vous pouvez pas condamner. Parce que votre arrêté, il faudrait sortir le cannabis pour qu'il soit cohérent. Quoi, ça me semble être la solution la plus immédiate, la plus simple, pour régler déjà le problème. Et voilà, je pose la question, est-ce que l'âme de Mathias appartient à Mathias ou est-ce que l'âme de Mathias appartient à l'État qui va lui dire qu'il faut faire ? Mon repère, c'est de pouvoir disposer en son âme et conscience de son âme et de sa conscience. Il y a des gens qui sont un peu protégés parce qu'ils ont des morales d'acier, et puis il y a des gens pour qui c'est un peu plus difficile, donc ils vont avoir besoin de ça. Est-ce qu'il faut les punir ? Est-ce qu'il faut les punir par des peines de prison, des peines d'amende, des casiers judiciaires ? Bah non. Pour moi, non, la réponse est non. Fondamentalement, on est obligé de constater que la criminalisation des stupéfiants et l'usage ici de stupéfiants n'a pas protégé les gens. L'argument, le premier, de dire ça risque d'entraîner plus de gens, bah c'est faux.
Parlons canin.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité, sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Bonjour, je suis Mathias et vous êtes bien sur Parlons Cana saison 2, le premier podcast qui traite de l'actualité du cannabis légal et bien plus encore. Après une première saison exceptionnelle où nous avons eu des invités extraordinaires, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison au cours de laquelle vous retrouverez un mélange d'opinions et d'entrevues piquantes, parfois musclées, avec une grande variété de personnalités. Des politiques, des avocats, mais aussi des producteurs, des addictologues et des acteurs majeurs du milieu venant du monde entier. Bref, vous allez apprendre des informations surprenantes venant de tous horizons et sans langue de bois. Nous allons ensemble démystifier cette plante aux mille facettes et examiner en profondeur cette révolution mondiale en constante évolution qui est le cannabis. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Je suis aujourd'hui avec Maître Nicolas Haché. Comment tu vas, Nicolas ? Est-ce que tu es en forme aujourd'hui ?
Super, merci. Bonjour. Bonjour Mathias. Bonjour à podcast. Je sais pas comment dire aux auditeurs.
Voilà. Alors, tu peux dire aux auditeurs. Voilà, on t'écoute. Alors toi, tu es avocat depuis janvier 2002 au barreau de Bordeaux. Tu es un avocat généraliste, mais sur les dernières années, tu t'es spécialisé sur la législation liée aux stupéfiants. Tu vas nous expliquer pourquoi, parce que il y a beaucoup de cases là sur lesquels on va discuter. Tu as beaucoup travaillé sur le CBD, le cannabis thérapeutique, et notamment sur la législation nationale, internationale, Novel Food, mais aussi sur le protocole expérimental sur le cannabis thérapeutique qui a fait couler beaucoup d'encre. Tu t'es concentré sur le THC et la prohibition des stupéfiants. Tu as travaillé sur l'AFD. Donc, pour rappel, l'AFD, c'est la fameuse amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants qui est assimilée à une condamnation pénale pour usage illicite de stupéfiants, mais évite les procédures judiciaires, mais ça reste inscrit sur le casier judiciaire. Donc, l'AFD a été utilisée pour désengorger les tribunaux avec le problème, notamment, où il y a énormément de problèmes de stupéfiants sur les tribunaux. On va bien sûr en parler. Tu as aussi travaillé sur du cannabis thérapeutique falsifié, on y viendra. Tu es pour la dépénalisation du cannabis en France. Tu es allé deux fois devant le Conseil institutionnel pour soulever la question du classement du cannabis comme stupéfiant. Et ton but ultime, c'est de supprimer le cannabis du code pénal. On a plein de choses à se dire aujourd'hui. Ça va être un interview, je pense, riche et intéressant. Pour la petite anecdote, et je le précise quand même, on l'avait déjà fait, cette interview ensemble, il y a un petit moment. Et évidemment, un problème technique a fait que on t'entendait pas sur cette interview. C'est dommage, ça a dit plein de choses. Donc, on le refait. Et en plus, c'était bien, on l'a discuté en off. Il s'est passé plein de choses depuis le moment où on a fait. Donc, tu as encore plein de nouvelles choses à dire. Tu es ultra motivé, Nicolas. Donc, on va passer un super moment. Mais avant tout, je te repose la même question que je pose très souvent. Qui tu es, Nicolas ? Alors, peut-être pas forcément parlant trop d'avocats, tu vas y venir, mais trop de cannabis. Essaye de nous dire un petit peu qui tu es et quelle est ta personnalité, qu'on puisse essayer de savoir un petit peu à qui on s'adresse, qui on écoute aujourd'hui, Nicolas.
Oh là là, je suis, alors professionnellement, oui, je suis un avocat depuis 2022 au barreau de Bordeaux. J'ai toujours exercé à Bordeaux.
T'as dit 2022
2002. Un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans maintenant. On va dire avocat généraliste, hein. Ce titre, donc, je faisais beaucoup de permanence pénale. Donc, j'ai défendu beaucoup de gens pour des histoires de stupéfiants et en particulier de cannabis. Alors, j'ai toujours eu une position, de par mon expérience personnelle, où je me suis autorisé à faire quelques remarques aux juridictions, en leur disant que ça n'avait pas vraiment de sens. Mais ça restait des remarques purement orales, qui n'étaient pas formalisées par écrit, qui ne correspondaient pas à des demandes à proprement parler en termes judiciaires, et qui avaient des effets, on va dire, négligeables, hein, sur les condamnations, puisque les juges s'en tiennent à la jurisprudence et ce qu'on leur a demandé de condamner. Et puis, ça a un peu changé à partir de 2018, puisque j'ai eu un client qui avait ouvert une boutique de CBD. C'était la première boutique en Nouvelle-Aquitaine, Green Haven, pour le citer, et qui a eu à l'été 2018, comme presque tous les gens qui vendaient du CBD, des problèmes judiciaires, c'est-à-dire perquisition, saisie du cannabis CBD, mise en garde à vue, présentation devant le juge d'instruction, mise en examen et décision du juge d'instruction d'interdiction d'exercer tout commerce et en particulier du commerce du cannabis. Donc j'ai rencontré mon client, on a fait appel de la décision et devant la cour d'appel de Bordeaux, on a obtenu la réouverture de la boutique et le droit de vendre du cannabis à condition qu'il respecte les obligations légales qui n'étaient pas du tout définies à l'époque. On ne savait pas encore si on pouvait vendre de la fleur, si on avait le droit à 0,2 ou 0. Mais enfin, c'était une première victoire, c'était une très chouette victoire puisque c'est la première fois qu'en matière de cannabis, on gagnait pour autre chose que pour des nullités de procédure et qu'on allait vraiment sur le fond du droit. Et moi, ça m'a permis donc d'appréhender pour une première fois l'arrêté qui fixe la liste des produits stupéfiants, l'arrêté du 22 février 1990, mais aussi l'arrêté du 22 août 1990 spécifique aux chanvres industrielles dont on se servait pour le CBD, de regarder un petit peu la loi et plus simplement un point de vue, on va dire, qui était un peu plus politique et personnel. Et ça a permis aussi d'arriver devant le juge pour la première fois en disant, nous, on vend du cannabis, on est content, on est fier, ça nous intéresse et on a le droit et c'est vous qui vous trompez et pas nous. Et ça, c'était une première pour moi puisque, d'habitude, c'est quand même, devant un juge, c'est quand même souvent mea culpa. Je sais, j'aurais pas dû, je recommencerai pas. Et là, c'était non, je recommencerai parce que j'ai le droit et je bataillerai pour obtenir mes droits. Et puis ça a marché. On est très contents, puis les choses ont évolué. En suivant, j'ai pas eu beaucoup d'affaires de CBD directement devant les tribunaux. J'ai donné quelques conseils à des boutiques de CBD, mais il n'y a pas eu vraiment de poursuites judiciaires pour mes clients. En revanche, à partir de l'année 2019, fin 2019, là, je me suis lancé, fort de ces premiers acquis sur le CBD, sur le cannabis THC, avec la volonté de dépénaliser.
Nicolas, je te coupe un petit peu. T'as été malin quand même. T'as évité ma première question de savoir qui tu es. J'essaie de revenir un peu. Mais là, t'as le côté, pour toi, le cannabis, c'est juste pour nous mettre un peu l'eau à la bouche et comprendre un petit peu comment tu es dans ce marché-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi humainement, on va dire,
on va parler très franchement. Bon, aujourd'hui, je vais avoir 50 ans. J'ai donc été étudiant dans les années 90 et comme beaucoup de gens dans les années 90, une époque où le cannabis était très réprimé, très interdit, hein, il n'y avait pas de parlons cana, il n'y avait pas de choses comme ça à l'époque, c'était strictement interdit. Comme beaucoup, j'ai fumé du cannabis, a été des années qui n'étaient pas forcément super agréables parce que il y avait tout un tas de choses et moi je pensais à l'époque que c'était dû à la plante, au cannabis. Avec le recul, je m'aperçois que c'était sans doute dû à la prohibition plus qu'au cannabis. Mais donc, j'ai connu effectivement les affres d'une consommation, on va dire, qui n'était pas toujours maîtrisée à l'époque. Bon, j'en suis revenu depuis très longtemps, mais j'ai gardé effectivement ce côté un peu viscéral. Et c'est pour ça que je le défends que je me bats contre la prohibition avec autant d'énergie.
Ok, j'ai bien compris. Écoute, on va parler directement des procédures que tu as en cours, peut-être. Essayons de se focus sur des procédures récentes parce que le marché a bien changé, a bien évolué. On est en 2023. Il est en train de se diriger vers vers quelque chose de nouveau. Toi, tu m'as dit en off aussi que maintenant, les discours, il est un peu différent. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des derniers cases que tu as et dernières procédures et qu'est-ce qui a changé?
Alors, je vais faire un petit historique. Alors, pour le cannabis THC, première intuition, quand j'ai commencé à bosser là-dessus, c'était effectivement sur le cannabis thérapeutique. En me disant, il y a un cannabis maintenant THC légal, donc le cannabis thérapeutique, dans le protocole expérimental. Et je me suis posé la question de savoir comment, enfin, est-ce que le fait que le cannabis soit devenu thérapeutique et donc autorisé en médecine humaine, ça ne joue pas sur sa classification dans la liste des médicaments sensibles et des médicaments stupéfiants. Parce qu'en fait, il y a plusieurs listes. Il y a la liste des stupéfiants qui comprend les médicaments stupéfiants, type morphine, type maintenant cannabis thérapeutique, type kétamine aussi. Et puis, il y a d'autres listes pour les médicaments sensibles, notamment la liste 1 et 2 et la liste des médicaments psychotropes, dans lesquels on trouve le Lyrica, le Rivotril, le Subutex, donc des médicaments qui sont aussi réglementés, très réglementés. Sauf que le régime répressif est pas du tout le même. Si vous trafiquez des médicaments stupéfiants, c'est 10 ans encourus, 7 500 000 euros d'amende. Si vous trafiquez des médicaments qui sont sur les deux autres listes, c'est 5 ans d'emprisonnement et 350 000 euros d'amende. Donc c'est pas du tout le même régime de peine, c'est même pas le même régime procédural pour les gardes à vue, les choses comme ça. Et je me suis demandé qu'est-ce qui faisait que celui qui vend du Subutex dans la rue, qui est pas médecin, qui le vend à des gens qui n'ont pas d'ordonnance, il risque 5 ans. Et celui qui vend du cannabis, qui maintenant est thérapeutique, lui, il risque 10 ans, 7 500 000 euros d'amende. Dans les deux cas, ils sont pas médecins. Dans les deux cas, les acheteurs n'ont pas d'ordonnance, ils sont pas malades. Enfin, ils viennent pas avec l'aval du médecin. Et cette différence de traitement, elle me semble attentatoire aux articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc principe d'égalité devant la loi pénale et de proportionnalité des peines. Alors cette première question, elle s'est décomposée en plusieurs parties. Et la première, c'est celle qui a été évoquée devant le Conseil constitutionnel, donc en 2021 et 2022, qui était de savoir qui c'est qui fixe la liste des différents médicaments, donc les médicaments stupéfiants, les médicaments assimilés stupéfiants, les médicaments sensibles. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est Direction Générale de l'ANASM, Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Anciennement, c'était directement le ministre de la Santé, mais comme ça a des implications sur le plan pénal, sur les risques encourus, normalement, on peut se poser la question, ça devrait relever de la loi, donc du législateur, donc Assemblée Nationale et le Sénat. Alors cette question, elle a été évoquée, comme je disais, étudiée par le Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel nous a dit il n'y a pas de difficulté parce que la notion de stupéfiant est suffisamment encadrée pour que ce soit le ministre ou la direction de l'ANASM, la direction générale de l'ANASM, qui s'occupe de classer les différentes substances. Alors ça, c'était un premier point, ça nous a permis d'avoir une définition des stupéfiants. Le Conseil constitutionnel nous dit qu'un stupéfiant, c'est un produit psychotrope qui se caractérise par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. Moi, je suis pas convaincu parce que les autres médicaments dont je parlais, le Subutex, le Lyrica, le Lyrivotril, tout ça, pareil, on a exactement les mêmes dangers au niveau de la dépendance, on a les mêmes risques sanitaires et on a les mêmes effets psychotropes. Et on sait par tout un tas d'organismes dont l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qu'il y a un deal de rue de ces médicaments, qu'il y a des usages détournés, qu'il y a des gens qui se défoncent avec ce genre de médicaments. Et il suffit de se balader dans le nord-est de Paris pour voir qu'effectivement, ces médicaments, ils tournent et qu'ils font des ravages. Et pourtant, on n'est pas traité de la même façon. Alors, j'ai reposé cette question ensuite devant le Conseil d'État en posant la même question, en critiquant l'arrêté de classement. Le Conseil d'État m'a dit que je ne pouvais pas invoquer l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et donc le principe de l'égalité devant la loi pénale, parce que je contestais un arrêté de classement et pas la disposition législative qui définit la peine. Alors, j'étais assez déçu. La décision, elle est tombée en octobre. Ça correspondait avec notre première tentative de podcast qui a pas marché. Donc, c'était une période un petit peu compliquée. J'avais presque envie d'arrêter. Mais bon, d'abord, c'est pas dépénalisé, hein. Donc, j'ai toujours des clients qui se font attraper parce qu'ils ont cultivé 3-4 plantes ou un peu plus chez eux. D'autres parce qu'ils se sont fait arrêter en fumant un joint. Enfin, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que j'arrête. Et puis, j'ai continué à bosser et je me suis relancé sur l'amende forfaitaire délictuelle. Mmh. Parce que, effectivement, en travaillant donc sur cette question de classification des stupéfiants, j'ai relu un peu la loi sur les stupéfiants, donc celle du 31 décembre 1970. Et effectivement, cette loi, elle a été conçue pour, comme dans le cas d'une politique de soins sous contrainte. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire aux gens, soit vous allez vous soigner pendant 12 ou 24 mois, vous nous en apportez la preuve, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de poursuite, vous passerez pas au tribunal, vous serez pas condamné, vous aurez pas de casier judiciaire. Donc, la peine de prison et la peine d'amende du délit d'usage illicite de stupéfiants, elle avait vocation à soutenir un soin qui était un soin contraint, qui était imposé par l'institution judiciaire. Et avec l'amende forfaitaire délictuelle, donc, puis le 23 mars 2019, il n'y a plus de soins du tout. On enlève le soin, on garde la contrainte. Donc, c'est plus du soin sous contrainte, c'est de la contrainte. Il n'y a pas de contrepartie. L'idée, c'était de dire, c'est politique sanitaire pour aider les gens qui sont considérés comme des malades, mais ils sont tellement malades qu'on est obligé de les forcer. Là, on les force toujours en payant l'amende, mais il n'y a plus de soins. Alors, ça, c'était aussi un argument que j'ai essayé de développer devant les tribunaux judiciaires, donc le tribunal correctionnel, les cours d'appel. Pour l'instant, sans succès. Et puis, en bossant sur la question de l'amende forfaitaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'amende forfaitaire, elle n'a pas éliminé le délit d'usage illicite de stupéfiants. C'est-à-dire que le délit d'usage illicite de stupéfiants, tel que prévu par le Code de la Santé publique, hein, le texte pénal, c'est 1 an de prison et 3750 euros d'amende, ce qui est pas pareil que 200 euros. En plus, voilà, en plus, l'amende forfaitaire, elle est inscrite 3 ans au casier judiciaire, quand la condamnation qui est prononcée par le tribunal, elle est inscrite 40 ans au bulletin numéro 1. Donc, c'est pas non plus la même. L'amende forfaitaire, elle constitue pas le premier terme d'une récidive. Donc, on peut avoir plusieurs amendes forfaitaires tous les ans ou tous les mois. Ça restera toujours à 200 euros. Alors que la condamnation au tribunal correctionnel, elle entraîne le premier terme d'une récidive. Si vous faites réattraper dans un délai de 5 ans, ça double la peine. Donc, c'est plus 1 an de prison, c'est 2. Et c'est plus 3750 euros d'amende, c'est 7000. Alors, une différence énorme. Et il n'y a aucun critère pour nous permettre de savoir dans quel cas on met l'amende forfaitaire et dans quel cas on renvoie la personne devant le tribunal correctionnel. Et là aussi, c'est une violation fondamentale de l'article 6, toujours le même, hein, égalité devant la loi pénale. Pourquoi dans certains cas, on prend 200 euros sans garde à vue? Monsieur, c'est 200 euros, puis vous rentrez chez vous. Et puis ça vous fait une bonne histoire à raconter. Et dans l'autre, c'est garde à vue, perquisition, passer devant le tribunal correctionnel. Passer dans le tribunal correctionnel, ça veut dire trouver un avocat, le payer. Ça veut dire un moment qui est jamais très agréable. Bah, au tribunal correctionnel, c'est quand même public. C'est stigmatisant, c'est humiliant, c'est compliqué. Et puis les peines sont pas du tout les mêmes. L'inscription au casier judiciaire est pas du tout la même. Et les règles sur la récidive sont pas les mêmes. Alors, moi, l'argument me paraît évident. Alors, il faut quand même préciser qu'il y a un article du Code de procédure pénale qui permet de différencier les cas dans lesquels on passe devant le tribunal et les cas devant lesquels on prend l'amende forfaitaire. Parmi les exclusions donc qui interdisent d'avoir recours à l'amende forfaitaire, il y a notamment la minorité. Ça veut dire que les mineurs, ils peuvent pas avoir l'amende forfaitaire, donc eux, ils sont renvoyés devant le tribunal pour enfants sous le régime le plus sévère avec l'inscription au casier judiciaire, les peines, voilà. Même si on leur met pas dans les faits, dans le droit, ils sont quand même soumis à ça. La deuxième exclusion, c'est qu'on peut pas mettre d'amende forfaitaire si la personne a commis 2 délits constatés simultanément. Le problème, c'est que c'est constaté et pas jugé. Ça veut dire, et ça arrive assez souvent, que si arrivé devant le tribunal, on arrive à obtenir la relaxe sur un des 2 délits, bah, le juge, il sera quand même saisi sur, non pas sur l'amende forfaitaire, mais sur le délit d'usage illicite classique, c'est-à-dire 3750 euros et 1 an d'amende, 3750 euros d'amende et 1 an de prison, alors même que, au final, la juridiction se rend compte qu'il n'y avait qu'un seul délit, c'était l'usage illicite de stupéfiants. Donc, ces exclusions, moi, elles me semblent absolument pas fondées. Puis après, on a d'autres exclusions, mais là, qui relèvent pas de la loi, qui relèvent d'une directive interne qui a été adressée par la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, donc le ministère de la Justice, aux différents procureurs et aux différents tribunaux, pour leur dire dans quel cas on met l'amende forfaitaire et dans quel cas on renvoie devant le tribunal correctionnel. Et ça n'a strictement aucun sens. On vous dit, par exemple, que si la personne présente des signes de désocialisation ou des troubles psychiques manifestes. Dans ce cas-là, c'est le tribunal, donc sympa pour les gens qui sont désocialisés. Ils se prennent la garde à vue, ils se prennent une amende 18 fois supérieure, des tas de soucis, et monsieur et madame, tout va bien, ils rentrent avec leurs 200 euros d'amende à la maison. Qu'ils la payent ou qu'ils la payent pas, c'est à peu près le même prix, ils iront pas en prison, enfin ils seront pas envoyés devant le tribunal correctionnel s'ils paient pas l'amende. Ça sera juste une amende, une dette envers le trésor public. Il sera éventuellement majoré avec les délais de retard, mais ça s'arrêtera là quand les autres vont au tribunal. Et puis surtout, cette directive interne, donc qui est pas publiée, qu'on peut pas trouver, elle précise les quantités et les produits. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, selon cette circulaire, ça peut intéresser nos auditeurs, en dessous de 50 grammes de cannabis, c'est l'amende forfaitaire. Au-dessus de 50 grammes, c'est le tribunal correctionnel. En dessous de 5 grammes de cocaïne, c'est l'amende forfaitaire. Au-dessus de 5 grammes de cocaïne, c'est le tribunal correctionnel. Et c'est la même chose pour 5 cachets d'ecstasy ou 5 grammes de MDMA. En dessous, c'est l'amende forfaitaire. Au-dessus, c'est le tribunal correctionnel. Sauf que moi, je considère que là, on est en présence de deux situations de faits différentes, punies par deux peines différentes. Et donc, on a deux délits distincts. On a le délit de usage illicite de stupéfiants en petite quantité, le délit d'usage illicite de stupéfiants en grosse quantité. Et là, ce texte, il est complètement inaccessible, donc les gens ne peuvent pas le savoir. Et le juge est obligé de se déterminer, non pas par rapport à la loi, mais par rapport à une circulaire qui n'a aucune valeur légale.
Wow.
C'est peut-être un peu compliqué. Procéduralement, ça se complique encore, parce que bon, devant les tribunaux judiciaires, devant donc le tribunal correctionnel, la cour d'appel, j'arrive pas à faire passer cette question à la cour de cassation pour un éventuel renvoi au Conseil constitutionnel, mais j'ai saisi le Conseil d'État sur cette circulaire, basant sur une jurisprudence, une décision qui date du 12 juin 2020, une décision GISTI où le Conseil d'État a considéré qu'on pouvait faire un recours sur les circulaires internes de l'administration du moment qu'elles pouvaient avoir une influence sur la situation juridique des personnes extérieures à l'administration. Et donc, c'est une circulaire interne du ministère de la Justice au parquet, aux juridictions, que je conteste devant le Conseil d'État. Et à cette occasion, je pose une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité en vue d'atteindre le Conseil constitutionnel et de faire abolir le délit d'usage illicite de stupéfiants.
Waouh ! Rien que ça. Dis donc, je t'ai laissé faire un gros monologue sur cette partie pour arriver à ce résultat-là. Oui, on voit que c'est quand même complexe. On voit aussi qu'il y a des aberrations. Ces aberrations, elles sont liées au bon jugement, j'allais dire, des juges, hein, en fonction de ce qu'ils veulent faire ou pas. Derrière, on a aussi le problème de la conduite, dont tu vas nous parler très brièvement. On a eu beaucoup de questions à ce sujet. On l'a déjà abordé. Mais voilà, si tu peux nous faire très rapidement sur cette conduite, parce que là aussi, c'est une aberration. On veut embêter les gens, j'allais dire, en faisant ça. On fait pas quelque chose qui est forcément positif. Je répète rapidement, on a un taux très faible THC où on peut fumer du CBD et potentiellement être positif, justement, lors d'un contrôle. Et aujourd'hui, être embêté par rapport à ça, donc perdre son permis, etc. Donc là, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur cette partie-là?
Ah oui, là aussi, on a fait un recours. Alors le recours au Conseil d'État là, sur la circulaire interne, voilà, fait au nom de l'association Normal France, je salue, je tiens à préciser, et on a fait aussi un recours sur les permis de conduire. Alors, on verra, hein. Dans les deux cas, je devrais avoir la réponse avant la fin du mois de mars ou début avril. Et sur le permis, effectivement, en 2003, il y a une loi qui a généralisé l'infraction de conduite après avoir fait usage de stupéfiants. Enfin, au départ, c'était sous l'influence de produits stupéfiants, puis ensuite, ils ont considéré que c'était après avoir fait usage de stupéfiants. Cette loi a été déjà examinée par le Conseil constitutionnel en 2011, qui a considéré, parce qu'à l'époque, on reprochait à cette loi de ne pas avoir fixé de taux, et le Conseil constitutionnel, et ça ressort des débats qui ont précédé la décision, a considéré qu'à partir du moment où l'usage de stupéfiants était interdit, c'était normal que on punisse les gens qui avaient conduit après avoir fait usage de stupéfiants, en laissant à l'administration le soin de régler les taux. Et préciser d'ailleurs, les taux correspondent à peu près avec la durée des effets. Sauf que on s'est aperçu que c'est aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout le cas. Donc c'est la situation classique de celui qui a fumé un joint à 18h avec un copain, qui rentre chez lui, qui mange, qui dort, qui prend son petit déj, qui prend sa douche et qui prend le volant à 10h. Ceux qui fument savent très bien que les effets seront partis et qui ont quand même commis le délit et qui peuvent donc, qui risquent, je crois que c'est 4 500 € d'amende, 2 ans de prison et surtout la suspension, voire la suppression du permis de conduire. Et la situation se complique d'autant plus qu'il y a cette fameuse histoire du CBD et que le CBD, aujourd'hui, on peut avoir fumé des CBD, les taux de détection sont tellement bas, surtout le test salivaire, qu'on peut être positif au cannabis, en ayant fumé uniquement du CBD. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'au début, moi, quand j'ai lu les arrêts un peu rapidement du 29 décembre 2022, donc sur le CBD qui a autorisé de façon définitive la fleur, enfin de façon définitive, pour l'instant, la fleur et le CBD à 0,3% de THC, ben, quand on les lit bien, on s'aperçoit que le cannabis CBD reste un stupéfiant pour le Conseil d'État parce que il est toujours inscrit dans la liste des produits stupéfiants et que la liste des produits stupéfiants ne différencie pas les différents cannabis, mais c'est un cannabis dont l'usage, la détention, le commerce n'est plus illicite, est devenu illicite et dont la production est licite si elle est faite par des agriculteurs actifs. Il n'empêche que moi, je pose la question, donc là aussi, au Conseil d'État, contre l'arrêté qui a fixé le taux permettant de déterminer si la personne a fait ou pas usage de stupéfiants, sur le principe de la liberté individuelle, et notamment le principe de la liberté d'aller et venir, puisque le droit de conduire, c'est un droit qui a été reconnu plusieurs fois par le Conseil constitutionnel comme une liberté fondamentale, et on peut pas la restreindre en dehors des cas bien précis qui correspondent à la sécurité routière. Et là, on punit des gens pour un comportement qui n'a aucune influence sur la sécurité routière. Donc, il faudrait revoir les taux. Alors, les taux, ça appartient au ministre. Pour l'instant, bon, genre, on a écrit au ministre pour lui demander de changer les taux. Il l'a pas fait. Mais on vise quand même le Conseil constitutionnel parce qu'on voudrait que le Conseil constitutionnel précise que c'est sous l'effet produit stupéfiant et pas après avoir fait usage de produit stupéfiant. Donc, que ça punisse vraiment l'effet. Et ensuite, de préciser que c'est l'effet psychotrope, puisque si on parle de l'effet des stupéfiants, vu qu'il y a des stupéfiants qui ne sont pas psychotropes, comme le cannabis CBD, même si le Conseil constitutionnel nous a dit autre chose, l'article, donc c'est 235-1 du Code de la route, il marche toujours, hein, il fonctionne toujours. C'est stupéfiant qui est interdit, le cannabis CBD c'est un stupéfiant, voilà. Mais on voudrait des précisions de la part du Conseil constitutionnel pour obliger ensuite le pouvoir réglementaire, donc le ministre, à prendre un arrêté avec des taux qui seraient, je sais pas, de 4 nanogrammes ou 5 nanogrammes.
Et ce qui est logique, aujourd'hui, on est à 1 nanogramme, si je me trompe pas, donc on est à un taux qui est très bas. Comme tu as dit, c'est un comble quand même, quelqu'un qui consomme un produit légal, donc peut perdre
son... C'est pareil avec l'alcool, hein. On a le droit de consommer de l'alcool, on n'a pas le droit de prendre le volant après avoir bu.
Ouais, mais t'es quand même à... deux verres de vin, ou une bière, il y a quand même, c'est pas un taux où tu reçois un postillon dans la bouche du gars qui a bu à côté, d'un coup t'es positif, toi on n'est pas...
Il y a une tolérance qu'il n'y a pas en matière de stupéfiants, alors que la dangerosité au volant se discute, quoi. Enfin, elle est très discutée. Alors moi je suis pas scientifique, hein, mais ouais, c'est quand même assez facile de trouver un certain nombre d'éléments qui précisent ça, notamment le rapport du Conseil économique, social et environnemental là, qui est sorti en février, ou 24 janvier 2022, précise tout ça, c'est des choses assez faciles à trouver.
Alors moi, ce que je pourrais rajouter quand même, tu me confirmeras, Nicolas, si c'est bon, mais évidemment, quand on se fait arrêter en ayant consommé du CBD et que potentiellement on est positif, il faut à chaque fois demander obligatoirement prise de sang derrière pour justement confirmer que le taux est faible de THC. Donc là, on voit vraiment la différence entre une consommation de produits à base de THC, de consommation de produits à base de CBD, qui pourrait être différencié grâce à cette prise de sang.
Avec la précision que pour la Cour de cassation, la chambre criminelle, donc c'est la partie judiciaire, le taux importe peu. Pour eux, c'est un taux de détection et pas un taux d'incrimination. Donc, dès qu'il y a une trace, ça suffit pour condamner.
D'accord.
Non, il faut quand même faire le test pour pouvoir donner à son avocat du grain à moudre devant le tribunal et expliquer un peu les choses et arriver un peu dans les brancards.
Oui.
Après, c'est celui qui a consommé du THC, qui le sait très bien et qui, voilà, est-ce qu'il peut pas garder juste le test pour jouer sur l'ambiguïté?
Oui, c'est...
Je le conseillerais pas, mais moi, il se trouve que dans beaucoup de mes dossiers, parce que j'ai quelques dossiers en cours, là, sur le permis de conduire, les gens m'expliquent, et je veux bien les croire, que, en fait, les policiers les découragent de faire le test sanguin, enfin, l'analyse sanguine. Parce que pour eux, c'est compliqué, parce qu'un policier n'a pas le droit de faire une prise de sang. Il peut faire le test salivaire, mais parce que c'est la personne qui l'a fait lui-même, mais la prise de sang, faut que ça soit fait par un médecin, un infirmier, donc faut amener la personne à l'hôpital. Alors, on raconte que les policiers disent que ça va coûter cher. Je crois que c'est pris en charge, hein, ça coûte rien. Voilà. Et puis après, c'est un peu facile pour les juges de dire, ah ben, on vous a proposé une prise de sang, vous avez pas voulu, alors qu'en fait, on leur a pas proposé.
Voilà, non, mais là, je veux préciser sur les personnes qui ont consommé du CBD. Et oui, je confirme, ça coûte rien. Donc évidemment, les policiers essaient d'éviter cette partie-là parce que c'est contraignant, c'est long. Et non, mais si vous avez consommé du CBD, que vous le savez, si vous êtes face à un juge avec une facture d'achat de CBD, un taux très faible sur la prise de sang, je pense que toi, en tant qu'avocat, c'est les dossiers que tu peux traiter avec plus de facilité.
Ouais, il y a beaucoup de décisions là. Alors, je les ai pas récupérées, mais sur Google, dans la presse, donc je sais pas quoi, La Voix du Nord, L'Est Républicain, il y a tous les jours, pas tous les jours, mais il y en a très souvent. On voit qu'il y a des tribunaux qui sont posés la question ou qui ont relaxé. C'est plus dur devant la, parce qu'en fait, quand vous vous êtes fait arrêter et qu'on fait un contrôle et on voit qu'il y a des stupéfiants, c'est suspension administrative du permis pendant 6 mois. Et ensuite, vous passez au tribunal correctionnel où, généralement, si c'est la première fois, on confirme la suspension de 6 mois. Et c'est rare qu'il la prolonge, sauf dans des cas très particuliers. Et vous prenez aussi une peine d'amende ou une peine de sursis suivant votre personnalité et votre casier judiciaire. Mais les 6 premiers mois, alors il y a une procédure, hein, c'est faire un référé suspension devant le tribunal administratif puisque c'est le préfet qui prend cette décision de suspension. Et là, pour l'instant, meurtre à un mur où les tribunaux administratifs me disent il n'y a pas d'urgence, votre client peut très bien vivre sans permis. Je prends juste l'exemple d'un de mes clients, chauffagiste en banlieue bordelaise, en zone périurbaine, comme on appelle ça. Donc, il est sur son cabis, hein, chauffagiste à domicile chez les particuliers. Il doit aller avec sa camionnette chez les gens qui sont disséminés dans la campagne autour de Bordeaux. Et le juge me dit il peut très bien y aller en transport en commun, avec son matos et tout. Alors que c'était une histoire de CBD. Hein.
Dingue, c'est dingue d'entendre ça. Ça fait des drames de vie, des drames d'existence. Ça pousse les personnes à potentiellement, ce qu'on ne pousse pas, mais conduire sans permis ou perdre son emploi. Je veux dire, c'est une catastrophe. C'est un sujet qui, j'espère que tu t'as parlé de Normal France, mais tu as beaucoup d'associations qui montent au créneau. Tu as l'IPCBD, tu en as plein d'autres. Et donc, évidemment, c'est d'où l'importance, et il faut le dire aux auditeurs, rapprochez-vous des assos. Approchez-vous de toutes ces personnes qui combattent pour pouvoir faire bouger les choses parce que, évidemment, derrière, il y a des drames humains qu'on peut éviter en mettant la pression un petit peu à l'État, en faisant des recours, en faisant des informations, ce que tu fais, toi, Nicolas. Et ça, j'invite tout le monde à le faire. Tu as parlé un petit peu de l'arrêté, des derniers arrêts de décembre 2022. Est-ce que tu veux encore en dire quelques mots là-dessus puisque, évidemment, ça a changé le game.
Matériellement, ils sont bien. Enfin, juridiquement aussi, ils sont bien. Hein. Et ça veut dire que les gens, maintenant, peuvent vendre du CBD sans trop de difficultés, qu'il soit importé ou qu'il soit produit en France. Alors, il y a la question de savoir, parce qu'on m'a posé la question, est-ce que j'ai le droit de faire pousser du CBD chez moi, sur mon balcon? Et la réponse est non. Parce qu'il n'y a que les agriculteurs inscrits donc à la MSA et qui justifient une assurance professionnelle qui ont le droit, au terme de l'arrêté décembre 21, de cultiver le CBD. Et s'il y a cette interdiction pour les particuliers, c'est parce que, ce que je disais tout à l'heure, le cannabis CBD est encore un stupéfiant, mais un stupéfiant autorisé. Mmh. Alors, ça pose un problème directement au niveau du classement du cannabis, puisque, comme je disais, le Conseil constitutionnel nous a dit en janvier et février 2022, que les stupéfiants, c'était les produits qui se caractérisaient par leur effet psychotrope, un risque de dépendance et les effets nocifs pour la santé. Or, le cannabis CBD, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Cour de justice de l'Union européenne avec l'arrêt de 2019 et maintenant les décisions du Conseil d'État qui nous disent le cannabis CBD n'est pas psychotrope, ne présente pas un risque de dépendance et n'est pas nocif pour la santé. Donc, il ne rentre pas dans la définition matérielle du cannabis, enfin du stupéfiant, tel que donné par le Conseil constitutionnel. Et donc, il n'a rien à faire dans l'arrêté du 22 février 1990 qui fixe la liste des produits stupéfiants. Alors ça me permet, moi, ensuite, devant des tribunaux, de dire, vous voulez condamner mon client pour du cannabis CBD, THC, de la cocaïne, de l'héroïne, n'importe quoi, stupéfiant, sur la base d'un arrêté qui marche plus. Donc, vous pouvez pas condamner. Puisque votre arrêté, il faudrait sortir le cannabis pour qu'il soit cohérent. Mais ça, il faut qu'il y ait un juge qui le valide. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je ne l'espère pas.
Là, tu donnerais un hack qui serait assez fantastique, mais donc c'est pas le cas encore pour l'instant. Ça marche pas ça.
Eh ben, écoutez, la prochaine audience c'est le 2 mars à Guéret. Là, c'est pour un type qui est agriculteur inscrit, qui a fait pousser un militant normal d'ailleurs, qui a fait pousser du CBD à titre professionnel. La police l'a su, elle a pas aimé, elle est venue perquisition, saisie, et il se trouve que le type était qui s'était lancé dans le CBD était aussi un fumeur de cannabis THC et qu'il avait au fond de, alors pas du tout au même endroit, hein, mais au fond de sa maison, pas dans le champ, il avait 3-4 pieds de cannabis THC pour sa consommation personnelle. Donc il est renvoyé au tribunal correctionnel là, le 2 mars à Guéret. Donc s'il y a des gens de Guéret, ben, ils peuvent venir. Ensuite, c'est le 4 avril à la cour d'appel de Pau. Là, pour un type qui avait 8 pieds, comme on appelle ça, indoor, en chambre de culture, avec tout un tas de matériel, mais il n'y a aucune preuve de trafic, il ne trafiquait pas, c'était pour lui. C'est une affaire pour laquelle on est déjà allé d'ailleurs à la cour de cassation, mais on compte bien y retourner. Ensuite, je plaide à Bordeaux, la chambre des mineurs, enfin devant le tribunal pour enfants, mais bon, ça c'est à huis clos. À Alès en juin, et puis en juillet, c'est Lorient et peut-être Strasbourg.
D'accord, donc t'as voilà. pas mal de choses.
J'espère bien qu'il y a un des juges qui va faire droit à mes observations et renvoyer l'affaire au conseil, la cour de cassation, pour qu'elle-même le renvoie au conseil constitutionnel et qu'on puisse dépénaliser avant le mois de juillet, avant la fin juillet.
Bon, écoute, super, on va suivre tes dossiers là. Tu communiqueras, j'espère, sur les réseaux pour voir un petit peu ce qu'il en est, s'il y a des bonnes nouvelles. Donc, on suivra ça de nous de près et on le transmettra sur nos réseaux, sur Parlons Cana, si tu as des bonnes nouvelles à nous partager. Moi, j'aimerais qu'on bascule sur la partie, tu parles de dépénalisation, on va parler de légalisation. Quelle est ta vision? Tu parles souvent de Normal France. J'ai l'impression que tu es avocat, mais un petit peu militant aussi. Tu défends des militants, du moins. Quelle est ta position, toi, sur la légalisation? Comment tu vois le marché? Pourquoi la France, aujourd'hui, est encore en retard alors que beaucoup de pays ont bougé, notamment aux États-Unis? L'Allemagne bouge, la Suisse bouge, l'Espagne ont les cannabis clubs. Bref, pourquoi aujourd'hui on est encore à se battre, et surtout toi en tant qu'avocat, à se battre contre un État qui comprend pas les bienfaits de la légalisation? Et je te mets une dernière petite anecdote juste sur cette petite intro, sur tout ce que tu vas nous dire. Mais tu vois, souvent, moi, j'ai envie de trouver des personnes qui sont contre la légale. Mmh. Des personnes sensées, tu vois, des personnes sensées qui ont des vrais arguments. Eh ben, je te jure, j'arrive pas à en avoir. J'arrive pas. On sort toujours les arguments classiques, tu vois, contre la légalisation, mais après, en 2-3 coups, bah, tu, voilà, tu vois bien que c'est une évidence, la légalisation. Toi, quelle est ta position là-dessus?
Alors, oui, pour répondre à l'avocat militant, oui, enfin, surtout, enfin, de fait, mais surtout, moi, je me fais plaisir en droit. Bon, ça, c'est très personnel parce que, j'ai bataillé contre le ministre, au Conseil d'État, la Cour de casse, au Conseil constitutionnel, devant les tribunaux. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça occupe les week-ends et les soirées. Là, je suis content. Je me fais des petites joies parce que je trouve des bons arguments. Des fois, des déceptions parce que des arguments moins bons. Enfin, une grosse partie du plaisir est là parce qu'on peut dire oui que c'est du plaisir. Et puis après, oui, fondamentalement, je suis pour la légalisation. Alors, moi, sur cette histoire de légalisation, dépénalisation, ma position en tant qu'avocat, mais aussi en tant que citoyen, c'est d'abord la dépénalisation. Alors déjà, moi, je peux pas, en tant qu'avocat, je peux pas légaliser quoi que ce soit, puisque je peux pas faire des lois. Par contre, je peux contester des lois, je peux défaire des lois. Et moi, mon objectif, donc, c'est de contester la loi qui pénalise l'usage illicite de stupéfiants. Donc, enlever l'usage illicite du stupéfiant du code pénal, et ce qui veut pas dire qu'il y aura pas de boutique, qu'il y aura pas de... Les trafiquants seront toujours poursuivis et condamnés, mais on n'embêtera plus les petits consommateurs. Ça, c'est l'objectif, je dirais, professionnel, mais je pense aussi que plus fondamentalement, ça peut être un objectif politique, parce que légaliser aujourd'hui, c'est toujours compliqué. On le voit avec l'Allemagne, on le voit avec tout un tas de pays qui essayent de se lancer dans la légalisation. Il faut définir les taux de THC, la distance entre la boutique et l'établissement scolaire, la publicité avec type loi E20, enfin, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire, la présentation sous un jour favorable. Enfin, il y a tout un tas de questions sur lesquelles les législateurs, les députés ont l'occasion de batailler, alors que la dépénalisation, c'est direct. On prend une gomme, on enlève le délit d'usage du code de la santé publique, enfin du code pénal, enfin, et là, bah, ça y est, c'est immédiat. Et ça veut dire, vu notamment la définition de l'usage par la Cour de cassation, ça veut dire qu'on aurait aussi droit à l'autoproduction. Donc les gens pourraient cultiver leur cannabis, fumer leur cannabis, mais pas le droit de le vendre, ni de le donner, ni de l'échanger, ni voilà, de le trafiquer. Donc moi, ça me semble être la solution la plus immédiate, la plus simple, pour régler déjà le problème et pour avancer. Et puis si on dépénalise assez vite, je pense qu'il y aura la légalisation. Sur la légalisation, ben, Moi, je vois là avec le CBD, on a déjà des boutiques, on a déjà des professionnels qui, pour la plupart, sans griller personne, connaissent très bien les cannabis, toutes sortes de cannabis et toutes sortes de cannabinoïdes, et qui seraient ravis de pouvoir travailler avec des taux un peu plus élevés. On pourrait commencer par 5%, puis ensuite augmenter sans même vraiment changer la législation, hein, en restant dans le cannabis bien-être, mais en faisant évoluer la notion pour intégrer finalement les cannabis avec des concentrations un peu plus fortes de THC. Donc on a déjà les réseaux, on a déjà les producteurs, on a déjà les boutiques. Les boutiques ont fait preuve quand même de leur professionnalisme depuis 2018, depuis 5 ans maintenant. Il n'y a pas eu de boutique où on a vendu autre chose que du CBD, tout le comptoir. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance, ils ont fait leurs preuves, ils sont structurés. Tu parlais du PCBD, la FPC, du syndicat du chanvre. Enfin, la filière est déjà en place et ils attendent que ça. Et moi, je trouve que le modèle est bien. C'est-à-dire que c'est pas des cannabistro, on va consommer sur place, mais on vient, on achète, on repart chez soi, et puis on peut consommer chez soi.
D'accord. Ok, donc quand tu parles de dépénalisation, on parle bien du cannabis ou tu parles de drogues en général?
Ah, il se trouve que le droit français ne différencie pas les drogues. Alors, okay. Il y a la circulaire que je conteste qui les différencie, mais ça, c'est pas du droit. Mais le droit français, le code de la santé publique et le code pénal ne différencient pas les drogues. Donc, oui, moi, si je demande l'abolition du délit d'usage, c'est effectivement pour tous les stupéfiants. Mais là-dessus, je me suis aperçu en bossant le recours au Conseil d'État et surtout en discutant avec mon ami Kenzi Riboulet, qui est un chercheur indépendant, basé à Barcelone, qui travaille beaucoup sur les questions des stupéfiants et notamment du cannabis. Et qu'au niveau international, et ça on le sait pas trop, les choses ont énormément changé depuis 2018. En 2018, il y a session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU qui a dit qu'il fallait avoir une approche basée sur les droits de l'homme et qui ne soit plus stigmatisante et discriminante pour les usagers et qui a un peu ouvert la voie à la possibilité de dépénaliser malgré les conventions internationales qui précisent notamment celle de 88, qu'il faut absolument criminaliser l'usage. Et en 2019, il y a une réunion du chef des différents organes des Nations Unies, donc style UNESCO, OMS, mais aussi l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'Office international de contrôle des stupéfiants, qui ont fait une déclaration commune. Alors, elle n'a pas force de droit, mais elle vient quand même d'autorités les plus importantes au niveau international, qui encourage les États à dépénaliser. Le Conseil de l'Europe, qui regroupe tous les pays qui sont soumis à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne, plus la Suisse, l'Azerbaïdjan, enfin, ils sont une cinquantaine de pays, a pris une position à peu près identique en disant il faut dépénaliser. Et le Conseil de l'Union européenne, alors c'est pas une directive, c'est pas un règlement, mais c'est une déclaration aussi, des conclusions communes, disent il faut accentuer la politique de prise en charge et ne pas pénaliser, enfin, ils disent pas ne pas pénaliser, mais ils disent mettre en place d'autres politiques parce que les politiques répressives éloignent du soin. Et là, c'est tout un mouvement international qui, je pense, est né avec le problème de la crise des opioïdes aux États-Unis et qui dit, alors qu'il n'est pas du tout un mouvement libertaire pour la liberté individuelle, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais qui dit les politiques répressives, elles éloignent les gens du soin, les gens qui sont en difficulté avec les stupéfiants, et il y en a beaucoup, ils vont pas aller se tourner vers le médecin parce que il y a la peur de se faire attraper par la police et donc ils vont pas y aller. Et donc leur optique, c'est de dire il faut favoriser le soin, et favoriser le soin, ça veut dire mettre le holà sur la répression, la stigmatisation, la criminalisation pour problème de santé publique. Ça, c'est quand même très, très, très important. Alors, en France, on n'en a pas du tout entendu parler de ces nouvelles positions internationales. Pourtant, elles sont primordiales. Alors, moi, je m'inscris à fond dans cette logique-là. C'est effectivement pour privilégier le soin, pour mettre en place des politiques. Et ce qui existe en France maintenant depuis la loi de 2004, mais surtout la loi de 2016 avec les salles de consommation à moindre risque, les salles de shoot, il y a tout un programme de prévention en destination du public des jeunes, des moins jeunes, d'information, et qui est de nature à remplir les obligations internationales. Donc, on n'a plus besoin de pénaliser, de renvoyer les gens au tribunal correctionnel. Et d'ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental, mission d'information sur le cannabis un peu avant, nous disent tous que c'est contre-productif et que ça enferme les gens, en fait. La punition enferme les gens dans l'illégalité et favorise des comportements d'addiction, des choses comme ça.
Écoute, j'aime beaucoup cette phrase-là où justement la pénalisation donc écarte du soin. Je pense que cette phrase, c'est une grosse punchline qu'il faut retenir. On en a déjà discuté un petit peu dans l'épisode 50 avec Jean-Pierre Couteron, qui est addictologue, et sur lequel on a beaucoup parlé de ce sujet-là, justement. Je pense que c'est un bon pas de réflexion. J'aime beaucoup ta position par rapport à ça. Et si je puis me permettre, toi, tu vois, t'es sur en première ligne, là, t'es dans le combat, tu poses les questions, t'essaies de faire bouger les murs que t'as en face de toi. En termes de délai, Nicolas, qu'en penses-tu? Quand est-ce que les choses vont enfin bouger selon toi? Moi, je veux pas te dire ce que je pense parce que moi, je suis très optimiste, tu vois. Mais toi, selon toi, qu'est-ce que t'en penses? Quand est-ce que ça va bouger? Alors,
moi, j'ai déposé mon recours au Conseil d'État pour Normol sur la directive Moretti, hein, donc la directive de la direction des affaires criminelles et des grâces, donc qui sur l'amende forfaitaire. J'ai posé la question, j'ai saisi le Conseil d'État le 9 janvier, donc le Conseil d'État doit me répondre avant le 9 mars. Le Conseil constitutionnel aura à me répondre avant le 9 juillet. Donc, pour répondre à ta question, à 9 juillet au plus tard, c'est dépénalisé.
Ah ouais, carrément.
Bah, c'est l'objectif. Hein. Voilà, après, bon, pour l'instant, j'ai fait plein de procédures, plein de recours, ils n'ont pas abouti. Il y en a peut-être un qui va passer, je les espère pas.
Alors, tu crois à combien de pourcents là, sérieusement?
Bah, c'est un peu compliqué parce que le Conseil d'État va juger le ministre de la Justice. Là où la Cour de cassation m'a dit non, il y a un gros enjeu politique. Mais en même temps, si je me réfère à ce que je viens de te dire sur l'évolution du droit international ou en tout cas des instances internationales qui s'occupent de ces choses-là, on est dans le timing. Hein. Si on voit autour de nous l'évolution des différents pays, ben, par exemple, la procédure que je propose, donc obtenir une dépénalisation par la voie judiciaire et par le Conseil constitutionnel, ça s'est passé en Allemagne en 1994. C'est la Cour de Karlsruhe qui a décidé qu'en dessous d'une certaine quantité, alors c'était que pour le cannabis, les gens pouvaient, enfin il n'y avait plus d'infraction pénale. 1994, ensuite c'est par Länder, je crois que ça doit être 20 grammes à Berlin et 10 grammes à Munich. Ils ont des bien meilleurs résultats que nous en matière de consommation de stupéfiants, enfin des meilleurs résultats, on s'entend, ils ont moins de consommateurs. Donc, des moins bons résultats pour les vendeurs de cannabis. Mais bon, pour la santé publique, oui, ils sont devant nous. Et ça s'est passé pareil en Colombie, au Mexique, en Alaska. Enfin, il y a des pays où c'est les tribunaux qui ont dit, ben non, ça suffit, on arrête là. Ça marche pas, c'est inefficace, c'est contre-productif, c'est attentatoire à tout un tas de principes. Enfin, de liberté fondamentale, donc il faut changer. Juste sur cette question-là, donc moi je te parlais de la politique de réduction des risques, dans laquelle je m'inscris totalement, je suis un individu responsable, mais je vais un peu plus loin. Je vais un peu plus loin en disant, moi je pose la question de savoir si le fait de consommer des stupéfiants, ça relève pas directement de la liberté personnelle, et que j'appelle même la liberté cognitive, c'est-à-dire... À partir du moment où cet usage ne crée pas de troubles pour l'ordre public ou pour les tiers, qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas de bagarre, qu'il n'y a pas de tapage nocturne, c'est de la responsabilité de chacun et chacun est libre de gérer et modifier ses propres processus cognitifs et de modifier son niveau de conscience. En gros, on a le droit, ça fait partie des droits fondamentaux, de se mettre la tête.
D'accord. J'adore cela, elle va être notée dans les punchlines aussi, cela. Ça fait partie des droits fondamentaux. Moi, je fais juste un petit peu l'avocat du diable, un peu. Hein. Tu sais qu'on a commencé un petit peu à avoir des haters, c'est magnifique. Hein. Si on a des haters, ça veut dire ouais. Que ça va être cool. On a beaucoup de personnes qui soutiennent, évidemment, très largement. On a quelques petits haters, surtout quand j'essaie de titiller un petit peu certains invités. Là, je vais essayer de faire un peu l'avocat du diable. Alors, imagine, tu consommes des drogues qui altèrent potentiellement tes relations sociales, altère potentiellement ton travail et décroche petit à petit de la société. Est-ce que après la société doit s'occuper de toi? Elle doit s'occuper de toi vu justement, ben, comme tu dis, soin d'un point de vue aussi argent, puisque tu pourrais potentiellement plus être productif pour la société. Et est-ce que justement, toujours en étant avocat diable, est-ce que justement le fait de limiter ça, d'éviter ça, ça évite d'avoir beaucoup de personnes qui décrochent et qui pourraient potentiellement être entre guillemets un poids pour la société et éviter ce genre de problématique pour une société quoi.
Bah d'abord fondamentalement, on est obligé de constater que la la pénalisation, enfin la criminalisation des stupéfiants et l'usage ici de stupéfiants n'a pas protégé les gens. C'est une évidence, hein, puisqu'on est le plus gros pays consommateur avec la réglementation la plus dure, non seulement en matière de cannabis, mais même en matière de cocaïne. Pendant longtemps, je pensais que les Hollandais prenaient moins de cannabis que les Français parce qu'ils prenaient plus d'ecstasy et de cocaïne. C'est faux. C'est les Français qui sont premiers consommateurs. Alors qu'en Hollande, on peut aller faire tester ces cachets d'ecstasy. Enfin, c'est quand même beaucoup plus tranquille et serein. Donc ça, c'est la première chose. Je prenais l'exemple d'une amie là qui me dit « Ouais, Nico, tes trucs de dépénalisation, moi, je suis pas trop pour parce que, regarde, à cause du cannabis, j'ai foiré mes études au lycée. » Je lui dis « Mais oui, mais quand tu étais au lycée en 1996, c'était interdit. Donc, c'est pas l'interdiction qui t'a protégé, qui a fait que tu n'as pas foré tes études. » Donc, l'argument, le premier de dire « ça risque d'entraîner plus de gens », bah c'est faux. Statistiquement, on constate que c'est faux. Puis sur la question de « est-ce qu'on prend en charge les gens qui se sont mis en difficulté ?», la réponse est oui. Moi, je prends cet exemple souvent de, on va dire, le mec, il a 50 ans, parisien, il n'a pas fait de montagne depuis des années, il décide de faire l'aiguille du midi, son médecin lui dit, n'y allez pas, vous n'êtes pas en forme, commencez par un truc plus léger, il dit, j'en ai rien à foutre, il va à Chamonix, il va voir le bureau des guides, on lui dit, oulala, l'aiguille du midi, les conditions météo sont pas bonnes, en plus, il y a eu de la neige jusqu'à tard, le couloir des machins est encore encombré. Le mec, il dit, je me rends à la foot, je suis plus fort que tout le monde, j'y vais. Là-bas, il se casse la gueule, on le laisse pas crever, on envoie l'hélico du PGHM, ça coûte je sais pas combien. Et voilà. Et pourtant, c'est son problème. C'est lui qui s'est mis dans la merde tout seul, quoi. Tout le monde lui a dit de pas y aller.
Je comprends. Donc, si je reformule. Alors, pour la petite anecdote, hein, j'ai fait deux fois le Mont Blanc. Hein, donc, je vois bien ce que tu es en train de me dire. J'adore.
T'entends, hein, de faire l'aiguille du midi tout seul, en hivernal, quand on n'a pas. Mais bon, quand on n'a pas.
Je fais le grand tour et je redescends par l'aiguille du midi quand je fais le Mont Blanc. Pour revenir sur cette partie-là, je comprends. Donc, si je reformule un petit peu, en gros, tu dis, bon, répression, pénalisation, résultat nul. Par contre, on dépénalise, ça permet potentiellement d'éviter, de commencer à créer du dialogue. Donc, notamment, créer du dialogue avec les soins, créer de l'information, de la véritable information. Et potentiellement, les résultats qu'on pourrait avoir pourraient être meilleurs, seraient meilleurs dans les chiffres que justement de pénaliser. Donc toi, tu te dis, il faut aller dans ce côté-là et accompagner les personnes qui se mettent en difficulté vis-à-vis des différentes drogues.
Tout à fait, tout à fait. Depuis le début, je pense ça. En fait, maintenant, le problème de la toxicomanie, pendant très longtemps, on croyait que c'était dû au produit. Genre l'héroïne, tac, on tombe accro. Et puis, on s'est aperçu avec le temps que c'était plutôt le rapport avec le produit et pas le produit lui-même. Et effectivement, quand vous êtes dans un système donc de pénalisation, vous mentez, vous paranoïez, vous déconsidérez, vous culpabilisez, vous enfermez entre fumeurs et ça peut avoir un rapport malsain par rapport au produit et développer des addictions, notamment chez les gens qui sont les jeunes par exemple qui souffrent, qui ont un potentiel de schizophrénie, qui connaissent pas, ils vont fumer un joint avec leur copain à 15-16 ans, tout le monde va rigoler, lui il va partir dans une expérience un peu difficile du fait de sa maladie. Parce que c'est interdit, il va pas aller en parler à son médecin, il va pas aller en parler à ses parents, il va se rester enfermé là-dedans et la prochaine fois, alors qu'il a vécu une expérience difficile, il va se précipiter dessus parce que il a des troubles d'ordre psychiatrique et que forcément, il va aimer les produits qui modifient son état de conscience et il risque alors que si on l'avait détecté plus tôt, s'il avait pu dire à son entourage, à ses parents, au médecin scolaire, j'ai fumé un joint, ça s'est très 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 mal passé. Peut-être qu'il aurait pu être pris en charge et on aurait pu sauver.
Je comprends. Et c'est
entendu qu'il y a aussi, je pense, qu'il y a un usage raisonnable des stupéfiants.
Je m'excuse.
C'est vraiment problématique sur les fumeurs de joint. Je dis pas qu'il y en a qui sont en difficulté par rapport à ça et je les invite d'ailleurs à aller consulter. Il y a des structures, même dans presque tous les CHU, il y a une section d'addictologie, c'est gratuit, on peut y aller. L'addictologue va nous faire écrire sur un cahier les nombres de consommation, essayer de voir à quel moment vous en prenez, pourquoi vous en prenez. Ça, c'est très bien, mais il y a aussi une consommation récréative, festive, heureuse, de stupéfiants, et pas que de cannabis.
Qui est la majorité ?
La psilocybine, par exemple, qui n'est pas très dangereuse. Même si elle a des effets psychotropes assez forts, il y a pas beaucoup de risques d'addiction et c'est pas nocif pour la santé.
Mais justement, d'où pas rentrer dans ce débat là maintenant, mais justement ça c'est le genre de choses où on a besoin d'en discuter. On a besoin d'en discuter, on a besoin de mettre sur la table justement des informations, des experts, des personnes qui peuvent exprimer ce genre de sujet sur lequel on peut en discuter librement. Évidemment, la partie dépénalisation, même légalisation, nous permettrait de faire ça.
Wow. On a quand même aussi un gros problème théorique et juridique, c'est qu'il y a l'alcool qui est psychotrope, qui entraîne une dépendance et qui est nocif pour la santé et qui est autorisé. Et pourtant, ça crée des tas de soucis. Enfin, on va parler aux femmes battues, si elles préfèrent que leur mari boive ou que leur mari fume, je pense que il y a du 100%.
Mais c'est vrai que c'est un des arguments qui est mis pour les pro-légalisations bien
voilà.
En avant.
Voilà, s'il n'y avait pas l'alcool, à la limite, je veux bien que l'État interdise et sanctionne les produits dangereux. Mais s'il y a l'alcool, là, c'est discriminatoire.
Je comprends ta position. Nicolas, t'imagines, ça fait presque une heure qu'on est en train de discuter ensemble. Ça passe à une vitesse folle.
Je crois que tu dis, Mathias.
Vu du petit lait en t'écoutant, c'est bien, c'était technique. Tu as des positions qui sont tranchées, bien argumentées. Moi, j'aime beaucoup discuter avec toi, Nicolas. Ce que je te propose, c'est, tu sais, à la fin du podcast, j'aime bien demander une petite phrase inspirante, une petite pensée inspirante, quelque chose qui nous permet de penser pendant un petit moment et de construire notre état de pensée sur ce marché-là, sur le cannabis, parce qu'on est sur Parlons Cana. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui qui nous permettrait de réfléchir sur les prochains jours?
Alors, j'ai pas préparé, mais au vu de ta réaction, j'ai envie de mettre l'avant sur ce concept de liberté cognitive qui est pas de moi et qui dit que tout individu est libre de choisir et contrôler ses propres processus cognitifs et de modifier volontairement son niveau de confiance. Je lance le débat. Moi, je pose des questions, hein, j'y réponds pas. On verra si le Conseil constitutionnel a l'occasion ou pas d'y répondre. Au début, j'avais mis artificiellement, j'ai changé par volontairement parce que ça prend plus large, hein, le yoga, la méditation, voilà. L'idée, c'est de dire, est-ce que aujourd'hui, on a le droit à peu près de tout faire, on dispose de son état civil, hein, on peut changer son prénom, son nom, on peut même changer dans certaines circonstances son sexe. On a le choix de sa vie, on peut choisir son métier. Si votre père est boulanger et que vous voulez pas être boulanger mais charcutier, vous avez carrément le droit. Il n'y a pas d'obligation de suivre la lignée familiale. On a le droit de se tatouer, de se percer, d'avorter, de coucher avec des filles, avec des garçons, avec des filles et des garçons en même temps, on a le droit de tout faire. Mais non, l'âme, par contre, ça ne vous appartient pas. C'est l'État qui décide dans quelle mesure on a le droit de la modifier. Alors avec l'alcool, oui, avec le reste, non. Et voilà, je pose la question, est-ce que l'âme de Mathias appartient à Mathias ou est-ce que l'âme de Mathias appartient à l'État qui va lui dire ce qu'il faut faire? Alors moi, mon repère, c'est de pouvoir disposer en son âme et conscience de son âme et de sa conscience.
J'aime beaucoup. Là, tu sais quoi, j'ai envie qu'on reparte là-dedans, peut-être avec un psychologue ou avec d'autres personnes, même avec toi, Nicolas.
Ouais, philosophe, ouais.
J'ai trouvé ça très intéressant, cette question. Là, tu m'as donné envie de répondre, de débattre sur ce sujet. Mais en tout cas, ça a marché.
Très techniquement, parce qu'elle avait aussi un intérêt technique. C'est, je ne sais pas si je vais arriver à faire comprendre, c'est que si on interroge un article du Code pénal ou du Code de la santé publique par rapport aux droits protégés par la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l'homme. Donc, est-ce que le délit d'usage illicite des stupéfiants est conforme à la liberté individuelle? Donc, il faut que la question soit sérieuse. Et il y a une autre possibilité, c'est d'interroger non pas le texte, l'incrimination, mais d'interroger la portée de la norme protégée. C'est-à-dire, est-ce que la liberté individuelle qui est protégée par la Déclaration des droits de l'homme comprend la liberté cognitive?
Super.
Et donc, en fait, en gros, c'est apporter un nouveau droit français. Je suis un peu ambitieux, mais alors, c'est, moralement, c'est peut-être le dernier des droits. Hein. Le droit de se mettre la tête, c'est le dernier des droits. Mais en pratique, il y a quand même une certaine importance parce que, je sais pas quoi, l'autre, il fête sa licence, l'autre, c'est l'anniversaire de machin, l'autre, il s'est fait larguer, il a les boules. Enfin, il y a de multiples raisons de vouloir modifier son état de conscience. Il y a des gens qui sont un peu protégés parce qu'ils ont des morales d'acier. Et puis, il y a des gens pour qui c'est un peu plus difficile. Et donc, ils vont avoir besoin de ça. Est-ce qu'il faut les punir? Est-ce qu'il faut les punir par des peines de prison, des peines d'amende, des casiers judiciaires? Bah non. Pour moi, non. La réponse est non.
Je suis d'accord avec toi. Pour moi non plus. Et on arrêtera sur ça, Nicolas, sinon on ne va pas s'arrêter. Merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble.
Merci à toi, Ancana. Merci à toi, Mathias.
Il est passé tellement vite. J'ai hâte qu'on rediscute. On va suivre tes dossiers, comme je t'ai dit, et je te renverrai sûrement une invitation dans quelques mois pour voir la suite des choses. Si tu as fait bouger les lignes, on sortira un hors-série rien que pour toi. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci pour ton combat. Merci pour ta personnalité. Merci pour tes questions. Merci pour ce qu'on a partagé aujourd'hui. C'était un pur moment de bonheur. Merci, Nicolas Haché.
Merci, merci Florent Canin. Merci, Mathias.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.